Do you think you can handle it?
2013.
Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît?
Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore?
Ladies and gentlemen.
May I have your attention, please?
Good evening and welcome to tonight's festivities.
Merci d'écouter la radio Web Radio Bourg-Chevreuil. Pour commencer cette émission, nous allons écouter une info de Clément.
Bonjour à tous, aujourd'hui je vais commencer avec une info sur l'Alaska, parce que je pense que vous savez pas, mais le drapeau de l'Alaska, qui représente une grande ours et l'étoile polaire sur fond bleu, a été dessiné par un garçon de 13 ans nommé Benny Benson. Le choix du drapeau était sur concours, de nos jours il flotte au-dessus des monuments importants de l'Alaska. Auditeur à vos crayons.
Merci Clément, nous passons ensuite à la chronique Japon de Gaïa, qui nous parle cette fois-ci des mangas.
Konnichiwa, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que vous connaissez tous, les mangas. Le titre d'ancêtre du manga revient à une pratique remontant au Moyen-Âge consistant à dessiner sur de l'eau ou de soie. Les plus connus sont shonen pour les garçons, shoujo pour les filles, kawaii pour les histoires d'horreur, soupkon pour les histoires sportives, les histoires d'adultes sont les gekiga et les histoires pour petits les yonen. Mais il y en a beaucoup d'autres. Le manga le plus vendu au monde est One Piece avec 490 millions d'exemplaires vendus. C'est un shonen écrit par Eiichiro Oda. Le manga le plus vendu au Japon en 2021 est Jujutsu Kaisen avec plus de 30 millions d'exemplaires vendus. Même au temps de nos parents, certains mangas étaient déjà très célèbres comme Astro le petit robot ou même Goldorak, Albator ou encore Dragon Ball dans les années 70. Voilà pour cette première chronique sur le Japon et ça que dit à bientôt. Sayonara.
Les mangas sont des livres. Bon, tout le monde le sait ça, mais grâce à cette info inutile, ça nous permet de passer à la chronique livre de Maëlys et Julie, qui nous présente aujourd'hui le livre La rivière à l'envers.
Alors, bonjour à tous. Je me présente, je suis Maëlys. Avec Julie, nous sommes deux lectrices passionnées. Enfin, lectrices passionnées, c'est peu dire. Sans lecture, nous serions réduites à de misérables, de minuscules et d'insignifiants champignons. C'est pourquoi nous avons décidé de vous parler de livres que nous avons adorés. Aujourd'hui, nous allons vous parler de La rivière à l'envers. C'est un livre de Jean-Claude Mourlevat. En format poche, il fait environ 160 pages, ce qui fait de lui un livre accessible à tout âge. Vous pouvez le trouver au CDI à la Côte Mour. Et justement, nous avons fait un sondage là-bas. Environ 22% des personnes que nous avons interrogées auraient lu le livre. Et l'unanimité des gens l'ayant lu ont dit avoir apprécié cette lecture, voire adoré. C'est une histoire très émouvante, celle d'une jeune fille qui cherche la rivière Gjar. Son eau aurait des propriétés magiques, lui permettant de sauver un oiseau extrêmement rare offert par son père. Dans le tome 1, c'est Thomas qui raconte l'aventure, tandis que dans le tome 2, nous découvrons l'histoire vécue par Anna. Alors d'autres livres du même auteur à découvrir, Jefferson, L'enfant océan, A comme voleur et bien d'autres encore. Si vous avez des idées à nous conseiller, vous pouvez en parler à Madame Deschésar. Ce sera tout pour aujourd'hui. Mais nous vous conseillons vivement La rivière à l'envers. Je vous dis à bientôt.
C'est super bien, merci. Passons au billet d'humeur d'Anaïs.
PS, l'auteur de ce texte tient à préciser que ces faits, bien que inspirés de la vie réelle, ne se sont pas vraiment passés. Oh, quelle journée horrible! Tout commence le matin. Je me lève comme d'habitude, c'est-à-dire en retard, et je me prépare à la vitesse grand V. Je commence par m'habiller. En tant que grande monomaniaque, il est de mon devoir de m'habiller de la façon qui correspond le plus à ce que j'aime. Et là, en l'occurrence, je suis à fond dans Harry Potter. Bref, je me prépare, je prends mon skate noir en édition limitée. En vrai, il ne l'est pas vraiment, mais ça sonne beaucoup mieux comme ça. Je sors et... oh non, il pleut. Alors ma mère me dit « Prends ton kawé !» Alors je prends mon super kawé, vous savez, le fameux kawé arc-en-ciel avec la licorne dans le dos et les élastiques multicolores. Et je fonce au collège. Je passe par la maison de Clémentonin. On ne se moque pas, c'est son vrai prénom. Mais je tiens à préciser qu'au collège, on l'appelle Onin parce que ça sonne bien. Je me rends compte alors que je suis plus en retard que prévu parce qu'il ne m'a pas attendu. Là, j'arrive au collège trempé, en haut de sueur, en bas d'eau de pluie, et là, eh ben, je me rends compte qu'il y a l'oral des troisièmes, donc il n'y a pas cours.
Merci Anaïs. Clément, nous aurons besoin d'une de tes infos.
Oui, bien sûr. Alors, cette fois, une info sur un habitant de Malines. C'est une petite ville située dans le nord de Bruxelles, en Belgique. Et en fait, sa maison se retrouve au milieu d'un rond-point. Bon, pour commencer, en 2013, il vivait dans une rue avec d'autres maisons. Et ses voisins ont accepté de vendre à la ville pour la construction de la route. mais lui, il n'a jamais cédé. Et du coup, bah, il se retrouve aujourd'hui au milieu d'un rond-point d'une voie de bus. Je pense que Cartier est beaucoup plus bruyant.
Annabelle va nous parler de la mythologie nordique. À toi, Annabelle.
Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va voir la mythologie Nono, Nono, Didik, la mythologie nordique. Et plus précisément, la cosmogonie nordique. Donc, à la base, on a le néant, appelé Ginnungaga, donna naissance au premier géant, Ymir, et une vache, Odumla, qui allait à Ymir. Ymir donnera naissance à Buri. Les pieds d'Ymir engendrèrent Trudgainer, géant aussi. Les géants se reproduisèrent. En particulier, l'un d'eux, Bort, eut une fille, Vestla. Vur et Vestla engendrèrent les premiers dieux, Odin, Vili et Vé. Alors, les sources sont la Voluspa, l'Edda poétique et l'Edda en prose du poète islandais Snorri Sturluson. Je tiens à m'excuser pour la prononciation des noms.
Merci Annabelle. Pour l'avant-dernière chronique, Rebecca va passer nous parler des célèbres inconnus.
Bonjour à toutes et à tous. Je vous souhaite la bienvenue dans la première émission de la chronique des célèbres inconnus. Aujourd'hui, je vais vous présenter Amelia Earhart, une célèbre aviatrice américaine. Peut-être que vous avez déjà entendu son nom, ou alors il ne vous dit rien du tout. Qu'importe, voilà son histoire. Amelia est née le 24 juillet 1897 dans le Kansas, aux États-Unis. Toujours surnommée Millie, la blondinette à qui ses parents nouaient un gigantesque nœud sur la tête n'avait rien d'une enfant modèle et sage. Au contraire, elle avait peur d'absolument rien et ne jouait qu'à la chef ou à la sportive. En grandissant, elle se coupe les cheveux mais garde son surnom. À 23 ans, elle monte pour la première fois dans un avion et se dit « Je veux devenir aviatrice ». Amelia prend immédiatement des cours de pilotage et s'achète un avion jaune vif qu'elle nomme « The Canary ». Elle réussit d'extraordinaires prouesses et s'élève à 4500 mètres d'altitude. En 1932, elle est la première femme à traverser seule l'Atlantique. Son trajet dure presque 15 heures et à son retour, elle est acclamée en héroïne. Mais pour Amelia, ce n'est pas assez. Elle veut encore plus loin. Très ambitieuse, elle décide de faire le tour du monde en avion. Mais malheureusement, elle ne reviendra jamais de ce voyage. On pense qu'elle a disparu dans l'océan Pacifique, mais on n'a jamais retrouvé son avion.
Merci bien, Rebecca. Maintenant, passons à une chronique qui, aujourd'hui, ne porte pas bien son nom. Je parle de la chronique « Un pays, un plat » de Léa, qui nous parle aujourd'hui du pays de l'émission « La France ». Léa nous parle de deux plats de notre beau pays.
Bonjour à tous. On trouve en France de nombreux plats qui lui sont propres. En voici deux. L'escargot, un mets très apprécié dès l'Antiquité. Les Grecs et les Romains l'ont rendu populaire en l'accommodant de différentes sortes. Mais c'est réellement à la Renaissance qu'il devient célèbre grâce aux cuisiniers François Ier et Henri II. En 1814, à l'occasion d'un dîner en l'honneur du tsar Alexandre Ier, Talleyrand commande à son chef une recette inédite, des escargots farcis au beurre, à l'ail et au persil. Cette recette fait merveille tout au long du XVIIIe siècle, où les plus grands restaurants la font paraître sur leurs cartes. Encore aujourd'hui, l'escargot figure toujours sur les cartes et tous lui font honneur, comme Bocuse et ses escargots à la bourguignonne, Blanc et ses escargots à l'oseille. Aujourd'hui, rien n'est plus simple pour en trouver. Il suffit d'aller dans le rayon frais ou surgelé de votre supermarché préféré pour en trouver. Le pot-au-feu, recette reprise par le restaurant à la cloche. Le pot-au-feu désigne à la base le pot à feu, c'est-à-dire le pot dans lequel on faisait revenir un bouillon aromatique auquel on ajoutait viande et légumes. Ce plat symbolise le repas unique du pauvre. En effet, il permettait de fournir à la fois un potage, de la viande bouillie et des légumes. Ce n'est qu'à partir du XVIIIe siècle que le pot-au-feu devient un plat de la cuisine bourgeoise. Aujourd'hui, on retrouve même le pot-au-feu à la carte de grands restaurants, en version revisitée. Bon appétit !
Passons maintenant à une interview du chef cuisinier du collège, par Élise et Apolline.
Pouvez-vous vous présenter ?
Oui, je m'appelle Sébastien Hamon. Je travaille au collège de Cesson depuis 1993 en tant que chef de cuisine. Et j'habite à Rennes, juste à côté.
En quelques mots, décrivez-nous votre métier.
Alors, mon métier, c'est d'élaborer les menus, de prendre au maximum des commandes, de la marchandise qui vient du département, la marchandise locale, de respecter les consignes données par le département, les lois Egalim, ça vous dit rien, mais c'est nouveau. Et puis voilà, quoi.
Où achetez-vous la nourriture ?
Alors, la nourriture, tout est acheté pratiquement dans le département 35. On essaye de travailler avec des petites entreprises à taille humaine. Donc, Par exemple, pour les légumes, c'est une personne qui est toute seule dans sa société. Sinon, on travaille avec des gens de Rennes essentiellement.
Qui décide des menus ?
Alors, les menus, c'est moi qui élabore les menus. Après, je les donne à l'intendante, Mme Carvela. Elle les valide avec Monsieur Tabarnous, le principal.
Merci.
Et pour les menus, j'avais quelque chose à rajouter. C'est que tous les ans, on a un audit nutrition. Donc, des techniciens du département qui viennent, qui regardent ce qu'on fait et qui nous disent les améliorations à apporter. C'est pour ça qu'il y a toujours un légume par semaine, obligatoire, sans féculents. C'est pour ça que quand il y a des féculents, il y a toujours un légume en complément. Et c'est pour ça qu'il n'y a qu'un produit pré-frit par semaine. C'est-à-dire que normalement, vous n'aurez jamais poisson pané et cordon bleu la même semaine.
C'est déjà la fin de cette émission. Mais pour finir, Clément a réservé une dernière info insolite.
Oui, pour finir, une petite info de Rennes. Car le 31 décembre 2019... 8 Rennais ont passé le nouvel an à 52 mètres de hauteur dans le Boomer Max lors de la fête foraine de Rennes. En effet, un incident technique a provoqué l'arrêt de l'attraction pendant près de 9h30. Alors vérifiez le compteur électrique avant de monter dans une attraction comme celle-là.
Nous vous remercions de nous avoir écoutés. C'était WRB. Bonne fin de journée. Do you think you can handle
it? 2013. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît?
Signore e signori, posso avere la vostra attenzione, per favore?
Ladies and gentlemen,
may I have your attention, please?
Good evening, and welcome to tonight's festivities.